Georges Baume, Le bien marié. Chapitre 1. Au troisième étage d'une des plus vieilles maisons de Marennes, la vieille cité du Bas-Languedoc, Gustave Mourez attendait, cet après-midi d'octobre, sa bonne amie Amélie Cassagnol. Dans cette vaste chambre convertie en cabinet de travail, il menait une existence bizarre et heureuse. À plus de 1000 kilomètres de Paris, sans rien connaître des milieux littéraires, il passait le meilleur de son temps à composer des romans et des pièces de théâtre. Dans la tortueuse rue Saint-Jean, qui, de l'église, descend au Planol, les Mourez tenaient une boutique de chaussures très achalandée. Un seul lien rattachait Gustave à la vie sociale de son pays, c'était l'amour qu'il avait voué à Amélie Cassagnol, qui était l'enfant unique des plus anciens amis de la maison. Blonde, jolie, 19 ans à peine, elle le charmait par la délicatesse de sa personne et la douceur de son âme. Elle chérissait en lui le beau garçon au visage pâle, aux cheveux châtains, aux clairs yeux bleus, qui croyait pieusement en la noblesse des belles lettres. Tout le monde pensait qu'il serait un jour prochain fiancé officiellement et qu'alors Gustave abandonnerait ses études, si inutiles, afin de succéder à son père dans le magasin de chaussures. Aussi, quelle stupéfaction ce fut pour tout le monde lorsque les Cassagnol annoncèrent subitement leur résolution d'aller habiter Paris. Les Cassagnol occupaient, au centre de Marennes, sur la promenade du quai, un appartement spacieux plein de lumière. M. Cassagnol, qui était le fils d'un ébéniste et ancien agent des contributions en Algérie, n'avait plus de parents. Sa pension de retraite, à laquelle s'ajoutaient les 5 ou 6 000 francs de rente de sa femme, lui assurait une vie tranquille de bourgeois cossu. M. Cassagnol aimait le paysage et le climat de son Languedoc, le doux terroir où dormaient tous ceux que, depuis son enfance, il avait aimés. Sa femme, au contraire, fille d'un ex-jardinier pourvu de quelque fortune, voulait oublier l'humilité de son origine. Comme il l'avait par faiblesse habitué à lui sacrifier ses goûts, c'est elle qui, rêvant pour leur Amélie en mariage extraordinaire, décida brusquement en apparence leur départ pour Paris. Amélie, tout d'abord, avait éprouvé de ce dépaysement profond un véritable chagrin. Pourtant, la vision glorieuse de la capitale et aussi l'idée consolante que jamais elle n'oublierait Gustave atténuèrent sa douleur. Cet après-midi, dans sa chambre de travail, Gustave l'attendait. Sa fenêtre demeurait toujours ouverte. Il s'accoudait au balcon de fer pour guetter dans la rue l'apparition d'Amélie lorsque, vers 2 heures, il aperçut, descendant de son pas balancé, la placette de l'église. Elle leva vers lui ses yeux bleus, son visage rose couronné de cheveux épais qui luisaient comme des ailes. Aussitôt, il la salua de la main. Puis, de crainte d'être surpris dans son émotion par un passant indiscret, il se retira dans sa chambre. Auprès de la porte, dont un rideau de percale blanche dissimulait mal le vitrage, il écouta les moindres rumeurs de la maison. Enfin, reconnaissant le pas alerte d'Amélie dans l'escalier, il ouvrit lentement et, lorsqu'elle se présenta, mince et fraîche en sa robe d'été, il n'eut plus que de la joie. Gustave lui désigna le vieux fauteuil au siège de paille sur lequel tant de fois elle s'était assise. Mais elle sembla ne pas comprendre son geste familier. Un peu confuse, elle dit, de sa voix si musicale d'habitude, « Nous partons dans 3 jours. »« C'est donc vrai, vous allez me quitter ?»«
Puisqu'il le faut. » »«
Bah, pourquoi le faut-il? Pourquoi n'avez-vous pas, avec votre père, résisté aux projets absurdes de votre mère ?»«
Ah, elle ne m'aime pas beaucoup. » »«
Vous vous trompez. » »«
Vous savez bien que non. » »«
Ah, comme dans Paris, vous m'oublierez vite. »
« Non, Gustave, c'est impossible !»
Le silence régna dans la chambre pauvre, inondée de lumière, et que la détresse de leurs âmes rendait à jamais précieuse. Amélie, qui tremblait davantage, insinua
« Ma mère m'a prié de vous demander quelque chose. »«
À moi ?»«
Elle m'a dit que ce n'est pas convenable que vous gardiez mes lettres. »«
Ah, vos lettres d'amour, il faut que je vous les rende ?» Dans un élan de colère, il se dirigea vers sa table de travail. Mais, tandis qu'il posait les mains sur ses papiers couverts de sa forte écriture, un sentiment de dignité, de regret aussi, l'arrêta. Tendre et câline, elle s'avança jusqu'en face de lui
et, les mains également appuyées sur la table, elle insista.
« Rendez-moi mes lettres, ma mère vous en tiendrait rancune. »
Ces lettres étaient pour moi l'unique témoignage de vos promesses. Je les aurais relues si souvent pour me consoler de votre absence.
Moi, je n'ai rien gardé de vous.
Allons, Amélie, je veux vous donner une preuve de confiance. Ayant ouvert son lourd tiroir, Gustave saisit avec précaution le menu paquet de lettres qui était serré par un cordon de moire rouge. Je ne les aurais pas gardées comme un otage, dit-il, car après tout, vous êtes libre. Les voilà. Amélie s'en empara, glorieuse, puis gênée d'avoir trahi son impatience.
Qu'en ferez-vous ? Demanda-t-il.
Je les brûlerai. Pourvu que leurs souvenirs ne s'envolent pas dans leur fumée. Comme il s'étonnait de sa précipitation, elle demeura auprès de lui en le remerciant de sa bonté et, pour lui plaire davantage, elle s'assit dans le fauteuil au siège de paille. Timide, il interrogea.
« Êtes-vous allé voir Papette Rességuier ?»«
Non, demain soir. Lui aussi n'est pas content. »«
Il a raison. Ah, pauvre petite, vous êtes charmante. Dans Paris, vous n'aurez plus que du dédain pour vos amis de marraine, pour cette campagne où nous avons connu ensemble nos premiers rêves d'amour et de jeunesse. »«
Ne parlez pas ainsi, Gustave. Je m'en irai trop malheureuse. »
« Aurais-je le courage de rester ici, dans mon isolement, si loin de vous ?»
Je n'oublierai jamais.
Elle se leva, aussi frêle que la tige d'un roseau à la fraîcheur de l'aube. Il la suivit d'un pas docile jusqu'au-delà de la porte. Soudain, comme entraînée par un ravisseur invisible, elle disparut prestement dans l'ombre de l'escalier. En bas, dans le magasin de chaussures, elle s'arrêta pour dire bonjour aux Mourez. La mère de Gustave, trapue mais dégourdie à l'ouvrage, montrait des souliers à une cliente. Le père, vieux avant l'âge, toujours souffrant de ses rhumatismes, était assis à son bureau. À la vue d'Amélie, l'un cessa de geindre, l'autre de s'occuper de sa cliente. Dans ce petit magasin pavé de carreaux blancs et rouges, enveloppé de hautes vitrines, que d'argent on avait gagné! Mais les Mourez, généreux et gourmands, n'avaient pas su en épargner pour les époques de disette. Amélie se plaisait auprès de la mère de Gustave, qui, plus chaleureuse que sa propre mère, la chérissait avec une dévotion véritable. Afin d'échapper à la curiosité des passants, elle s'était abritée dans un coin du bureau, assez loin de la porte. De temps à autre, M. Mourez s'appuyait sur sa canne, avançait sa tête grimaçante, aux yeux ronds de myope, pour mieux la considérer.
« Que fait Gustave là-haut » demanda-t-il avec rudesse.
« Il travaille. »«
À quoi ?»«
Du calme, mon ami, » intervint Madame Mourez. « Il vaut mieux que Gustave lise des livres que de se traîner du matin au soir dans les cafés. »«
Non, il devrait sortir, vivre avec ses semblables, jouir bravement des choses de la terre pendant qu'il le peut. »« Un homme qui se confine dans la solitude devient vite orgueilleux et triste. »« Est-ce qu'il ne devrait pas nous aider ici, dans ce magasin ?»
Bah, nous suffisons largement à la vente.
Où le conduira cette maladie de la littérature? Toi, Amélie, si tu étais restée à Marraine, auprès de nous, je t'assure que nous l'aurions corrigé.
Oh, répondit Amélie, il saura bien plus tard, quand il en aura besoin, se plier aux nécessités d'un travail pratique. Allons, au revoir. Elle embrassa la mère sur les joues, et légère, émue de la tristesse que son absence allait provoquer dans cette maison pleine de sa pensée, elle monta rapidement la rue déserte. Elle savait que, de là-haut, du balcon de sa chambre, Gustave la guettait. Mais elle eut le courage de ne pas se détourner une seule fois.